Economia, votre rendez-vous hebdomadaire d'informations économiques à suivre sur Radio de la Paix.
Heureux de vous savoir nombreux au rendez-vous de votre émission d'informations économiques sur Radio de la Paix. Ce numéro d'Economia nous parle encore de lutte contre le blanchiment de capitaux et de lutte contre le terrorisme. C'est un sujet fort important et vous découvrirez le rôle des structures internationales, sous-régionales et nationales créées pour lutter contre ces pratiques. Et ça sera avec Faustin Olozon, expert en économie, notamment en intelligence économique. Dans la rubrique itinéraire, nous nous rendrons à San Pedro pour découvrir Madame Guédé, pour découvrir une dame dynamique, une battante qui nous parlera de son parcours. Et bien avant, démarrons avec la définition de certains termes économiques que vous entendrez dans cette émission. Et c'est maintenant.
Le lexique économique. Le lexique économique.
Le GAFI.
Le groupe d'action financière GAFI est l'organisme mondial de surveillance du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. Et ce groupe définit des normes internationales visant à prévenir ces activités illégales et les dommages qu'elles causent à la société.
Le GIABA.
Le GIABA, le groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique de l'Ouest, a été établi en 2000 par la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. La création du GIABA est donc une réponse de la CEDEAO à la lutte contre le blanchiment de capitaux et la lutte contre le terrorisme.
La CENTIF.
La CENTIF, la Centrale Nationale de Traitement des Informations Financières, est une structure ivoirienne. Elle a pour mission de lutter contre les circuits financiers clandestins, le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Regard sur la gestion économique nationale.
Nous nous intéressons à une actualité économique, le concept de blanchiment d'argent. Nous sommes avec un expert des questions économiques, expert en intelligence économique, vous le connaissez. M. Faustin Olozon qui est avec nous. Bonjour M. Faustin Olozon.
Bonjour M. Koumé.
Ce terme blanchiment d'argent est ressorti bien sûr récemment à cause d'une décision du GAFI, le groupe d'action donc, financière, une structure internationale et qui classe les pays en fonction des risques en ce qui concerne le blanchiment et la lutte contre donc le terrorisme. Voilà, la Côte d'Ivoire qui fait partie d'une liste dite grise de cette structure, le GAFI. Alors, quand nous parlons de blanchiment d'argent, qu'est-ce qu'on doit entendre par là?
Merci, monsieur Koumé. On blanchit quand on estime que le produit est sale. Et tout ce qui est produit sale, c'est ce qui provient, par exemple, de la corruption, ce qui provient, par exemple, des différentes attaques d'une banque, etc. Et donc, les fruits de ces produits-là sont illicites. Alors, l'objectif ici de tout blanchisseur, c'est de faire en sorte que tout ce qui est illicite soit licite. Et donc, c'est le fait de rendre licite, c'est-à-dire bon, les fruits d'une activité qui est illicite, en quelque sorte.
Donc, qui n'est pas autorisé, en fait.
Qui n'est pas autorisé. Voilà, c'est généralement, ça peut être des produits du crime. Vous pouvez peut-être tuer quelqu'un, prendre son argent, ça peut être des milliards de francs CFA. Et votre objectif, c'est de faire en sorte que cet argent soit introduit dans le circuit économique et financier.
Alors, c'est une réalité, une triste réalité, on peut dire, et il y a des structures qui sont chargées d'essayer d'aider les pays à lutter contre cette pratique-là. Quand nous parlons, par exemple, du GIABA, nous parlons de la CENTIF, ce sont des structures, pour ne pas parler du GAFI, qui est un peu international, mais déjà, il y a des structures qui existent dans la sous-région ou au plan national et qui luttent contre ce blanchiment d'argent, cette pratique, c'est cela?
Oui, votre serviteur lui-même, il a été formé par le GIABA en collaboration avec le GAFI.
Le GIABA,
le groupe intergouvernemental d'action axé sur la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme en Afrique de l'Ouest.
Ah, c'est une structure sous-régionale.
Voilà, sous-régionale. Et elle relève de la CEDEAO. Et donc, j'ai été formé par cette structure et j'ai représenté notre pays au niveau de cette structure. En tant que correspondant national du GIABA. Et puis, bien évidemment, pendant toute une décennie, nous avons été formés par le GAFI et par le GIABA.
Alors, intéressons-nous à cette structure sous-régionale d'abord. Le GIABA, le contexte de sa création, c'était parti de quoi? Parce que dans la sous-région, cette réalité du blanchiment d'argent est présente, c'est cela?
Tout à fait. Mais il ne faut pas attendre que ce soit présent ou trop présent. Et l'objectif pour tout pays qui souhaiterait, par exemple, avancer, et son objectif, c'est de mettre sur pied des dispositifs de lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme. Mm-hmm. Et il y avait un vide sur ce point, un vide technique, un vide juridique, mm-hmm. pour ce qui concerne les pays membres de la CEDEAO. Et donc, nos différents États ont estimé qu'il fallait créer cette structure-là et qui devrait logiquement travailler ensemble avec le GAFI, qui est le groupe d'action financière international, mm-hmm. qui est basé à Paris et qui a été créé en 1989.
Alors, vous parliez de formation de GIABA. Vous, experts financiers, lorsqu'on vous forme, quels sont les éléments qu'on met en avant pour que vous puissiez détecter, on peut dire, l'argent illicite de l'argent licite? Quels sont les éléments mis en avant?
Oui, il y a d'abord ce qu'on appelle des obligations en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme. Et maintenant, on vient de parler du financement de la prolifération des armes de destruction massive. Mm-hmm. Il y a certaines obligations à partir desquelles on vous forme, que vous devez connaître, que vous devez détenir. Mm-hmm. À quel moment il y a blanchiment des capitaux, à quel moment on parle de financement du terrorisme, mm-hmm. et à quel moment on parle de financement de la prolifération des armes de destruction massive. Il y a aussi des processus de vigilance qu'on essaie de vous apprendre. Et puis, il y a tout ce qui est profil des risques et puis, je crois, des indices d'alerte. Mm-hmm. Tout ça, ce sont des éléments importants en tant qu'évaluateur que vous devez connaître pour aller, bien entendu, évaluer les pays membres de la CEDEAO. Et dans ce cas bien précis, j'en ai évalué beaucoup.
Vous parlez d'évaluation, vous vous êtes formé. En quoi, par exemple, l'évaluation d'un pays ou d'une structure est importante dans son fonctionnement? Par exemple, les structures financières. Quand vous évaluez ces structures-là, c'est pourquoi leur donner certaines certifications?
Tout à fait, c'est bien ça. On se base sur certains principes qui sont, j'allais dire, internationaux. Vous savez que le GAFI a été créé par le G7, les 7 pays les plus riches du monde. Et depuis, tous les autres États s'allient à cette structure-là, mm-hmm. d'obédience internationale, pour mettre sur pied certaines dispositions pratiques, mm-hmm. en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux. Et dans ce cadre bien précis, on se base sur les 40 recommandations du GAFI. Et on ne peut pas les citer toutes ici, mais mm-hmm. on pourrait peut-être mettre l'accent sur les politiques et les coordinations en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Mm-hmm. Aussi bien au sein d'un État qu'au sein de plusieurs États, et puis entre nos États et le GAFI. Et puis il y a aussi la lutte contre le blanchiment des capitaux, la lutte contre le financement du terrorisme, ça fait partie des recommandations, la lutte contre le financement de la prolifération des armes de destruction massive, la lutte pour la transparence, puis certaines mesures préventives. Et il y a aussi la lutte contre la corruption, qui est une gangrène en matière de développement de nos économies. Vous savez que la corruption est vraiment négative. Hein,
oui, il y a des évaluations de la haute autorité et la bonne gouvernance. Hein, beaucoup d'argent perdu.
Oui, bien sûr. Même quand vous prenez une variation positive ou alors une variation d'une production nationale, c'est-à-dire votre taux de croissance. Mm-hmm. Lorsque vous voulez mesurer, par exemple, votre richesse nationale, celle à partir de laquelle on dit que vous êtes riche ou bien vous êtes pauvre. Mm-hmm. Les chiffres qui sont déclarés par l'État peuvent être compromis. Parce que si on déclare, par exemple, un taux de croissance de 8% et qu'entre-temps, au cours de la gestion de ce taux, on constate que, parce que la croissance, c'est la variation de la production qui est axée sur l'investissement, la consommation, puis le sort du commerce extérieur. Alors, si l'investissement a été biaisé et qu'on a un taux de 8%, un taux peut-être de 9% pour l'investissement, 10% pour la consommation et puis 12% pour le sort du commerce extérieur, et ça va peut-être nous donner un taux de croissance de 9% ou bien alors un taux de croissance à deux chiffres, alors que cette croissance-là a dû être biaisée parce que les chiffres peuvent devenir fous du fait de la corruption. Là où on annonce 8%, si la corruption a pris 4%. Là où on enlève 6%, si la corruption a pris 4% au niveau de la consommation. Si la corruption a pris 6% au niveau de investissements. Mm-hmm. Si la corruption a pris 4% au niveau du sort du commerce extérieur, vous verrez que le taux que vous avez donné au début, il sera différent du taux réel. Et ce qui est sûr, dans ce cadre bien précis, et vous allez voir que la richesse ne pourra pas appartenir à tout le monde. Et si bien que l'État lui-même ne peut ni rien comprendre. Il se dira, mais avec un taux de 8 ou 9%, comment se fait-il que les ménages ne mangent pas à leur faim? Mm-hmm. Comment se fait-il qu'il y a des difficultés un peu partout? Mais c'est parce que la corruption est passée par là.
En tout cas, c'est un boulet, hein, la corruption. Et donc, ces structures mises en place comme le GIABA, donc le GAFI, sont là pour lutter contre le blanchiment d'argent. Vous l'avez expliqué, c'est de contourner, hein, bien sûr, des systèmes pour remettre donc dans un système financier de l'argent illicite, l'argent sale, hein, appelons les choses simplement. Alors, nous allons aussi nous intéresser à une structure nationale. On en a entendu parler. La Centif est une structure qui a ce rôle national là, comme le GIABA, ou bien ces deux structures distinctes ou qui collaborent?
Alors, si vous voulez, le GIABA, lui, il est à l'affût de tous les textes. Parce que la Centif ne peut pas être juge et partie en même temps. Mm-hmm. La Centif ne peut pas créer les tests et prendre ses tests pour aller faire des contrôles.
C'est cela.
Voilà. Elle assainit, elle fait des contrôles. Et elle met l'accent sur ceux qui biaisent, par exemple, les obligations en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme. Alors que le GIABA, c'est lui qui met en relief tous les textes, c'est lui qui étudie tous les textes.
En tout cas, c'est noté, on comprend que l'État s'est donné les instruments pour lutter efficacement contre le blanchiment d'argent et la lutte contre le terrorisme. Nous allons nous arrêter là en ce qui concerne donc cette présentation des structures qui existent déjà. Merci à vous, M. Fossé Ondozon.
Merci, M. Koumé.
Allez, la semaine prochaine, nous serons encore avec vous, amis auditeurs. Allez, au revoir.
Itinéraire, le parcours de vie de notre invité.
Itinéraire, c'est le parcours des personnes qui pour nous sont des modèles en termes d'abnégation, en termes de courage, en termes aussi d'idées. Et nous sommes à San Pedro, après Daloa, nous rencontrons une sympathique femme, une dame qui fait parler d'elle ici à San Pedro. Bonjour madame.
Bonjour monsieur.
Vous appelez ?
Mon nom Kone Salimata, épouse Guédé.
Alors madame Guédé, nous vous découvrons. Si on vous demandait de vous présenter à nos éditeurs, qui vous êtes ?
Je voudrais vous dire merci pour ce temps d'antenne. Je suis ivoirienne. Plus précisément de Boundiali, sous-préfecture de Kouto, mon village s'appelle Tabakoroni. Je suis à San Pedro depuis 1993. Aujourd'hui, je suis une opératrice économique. J'ai commencé mes activités avec la somme de 7500 francs. 7500, je suis venue rendre visite à ma petite sœur à San Pedro. J'ai commencé mes activités avec la modeste somme de 7500. Et les 7500... J'ai un beau qui conduisait un car du Burkina qui m'a invité à aller découvrir le Burkina. Et j'avais en tout sur moi 10 000. Les 2 500, j'ai pris pour payer la petite nourriture. Et arrivé à la frontière, les dames, les commerçantes étaient en train de payer des petites marchandises, des bouteilles de liqueur. Et j'ai payé un carton à 7 500. Et je suis venu à San Pedro avec. J'ai dit, mais je ne sais pas comment vendre. Il y a une dame, elle s'appelle Mariam. Je lui dis toujours merci. C'est elle qui m'a conduit chez une dame. L'espace s'appelait Espace Zougou. Actuellement, c'est là se trouve le nouveau marché. Et la dame acheter le carton de boisson à 60 000.
Alors, c'est tout un parcours. Hein. Qu'est-ce qui vous motive à vous retrouver à San Pedro ? Vous avez indiqué d'où vous êtes né. Boundiali, San Pedro, à quelle occasion vous vous retrouvez ici ?
Il faut dire que j'ai mené mes études secondaires à Bassam. J'ai fait la classe de terminale et je suis tombée gravement malade. Pendant 2 ans, je n'ai pas pu reprendre le chemin de l'école. Les parents vraiment qui vivaient dans des conditions précaires de vie à Bobo n'ont pas pu acheter une école privée pour que je puisse continuer les études. Et c'est ce qui a fait que j'ai arrêté les études. Et comme ma petite soeur était à San Pedro, elle était mariée, monsieur. Donc je suis venue leur rendre visite. C'est en leur rendant visite que le grand frère de ce monsieur qui conduisait un car du Burkina m'a invité à aller découvrir le Burkina. C'est au retour du Burkina que j'ai acheté la boisson et je suis venu vendre à San Pedro. Et ayant essayé cette activité, cela m'a donné le courage de rester et de tenter ma chance. Et les 60 000, la semaine qui a suivi, j'ai payé mon transport comme tout passager. Et je suis reparti au Burkina. Le transport en son temps, aller-retour, faisait 25 000. Et quand je déduis les 25 000 de 60 000, il ne me restait pas grand-chose. Et j'ai réacheté encore la même boisson avec 2 ou 3 pantalons jeans que je suis venu vendre. Et au bout de 3 mois, je me suis retrouvé avec la somme de 1 million. Et je repars au Burkina avec les 1 million et je vais tous les perdre. Je vais perdre tous les 1 million. Oh, c'était un milieu qui n'était pas sain. C'était un milieu qui n'était pas sain. À ce voyage où je prévoyais acheter du vivrier, la tomate, les choux, les tissus que les autres grandes commerçantes vendaient, j'ai voulu essayer dans ce sens-là. Parce qu'il faut dire, la boisson même, je ne savais pas que c'est quelque chose qui était interdit. Et comme je ne le savais pas, Dieu aussi m'a protégé, je n'ai pas de problème avec le corps habillé. Mais au fur et à mesure, j'ai compris que ça pouvait me créer d'autres problèmes. Donc je me suis dit, comme j'ai beaucoup d'argent, je vais faire le vivrier. Je vais acheter la tomate, les choux, les carottes, les tissus pour venir vendre. vendre.
Tout ça au Burkina.
Tout ça là au Burkina. Parce qu'il y a des dames qui partaient, qui revenaient. Oh, le milieu n'était pas sain. Parce qu'il y avait une autre forme de prostitution dans ce réseau-là. Et ce voyage où je vais perdre tout mon argent, le chauffeur il me fait des avances, l'apprenti me fait des avances, le convoyeur me fait des avances. Je dis non, mais moi je suis venu pour mes activités. C'est vrai, l'école n'a pas reçu, mais je me retrouve ici pour pouvoir faire quelque chose, pour me prendre en charge, pour être autonome. Donc tout ce que vous dites là, moi je ne peux pas rentrer dans ce cycle-là. Et je vais, je fais mes achats, ils se mettent contre moi, ils refusent de prendre mes bagages. En tant que c'est denrées périssables. Et pour pouvoir corriger, il me dit, bon, dans ce cas, il y a de la place, des bagages, mais tu n'auras pas une place à toi-même. J'ai dit, mais comme c'est la même compagnie, moi, ça ne me gêne pas. Pourvu que mes bagages arrivent à San Pedro, je monte dans un autre cas, on met mes bagages dans un coffre, je paye le transport et il me reste pour tout et pour tout 10 000. Voilà, on arrive à Yamoussoukro, on mange, on prend la route de San Pedro. J'arrive à San Pedro pendant 3 jours. Le cas n'arrive pas.
Vous arrivez avant le voie marchande?
J'arrive avant le cas. Tous les cas sont rentrés sauf ce cas-là. Ils me disent que non, le cas est tombé en panne. Ils sont allés payer moteur. Or, quand c'est comme ça, le convoyeur, les denrées périssables qui sont dans le véhicule, ils vont dans le village ou bien dans la ville où ils ont fait la panne pour empêcher la commerçante d'endosser les pertes. Et le cas revient une semaine après à San Pedro. Il n'y a pas de trace de ma marchandise. Je vais me plaindre à la gare, à peine même si le chef de gare m'écoute, personne ne m'a écouté. Et il me restait 4 000.
C'est beaucoup de leçons de vie. Vous avez 7 000, vous achetez, vous avez 60 000. 3 mois après 1 million, vous retrouvez à 4 000 francs. Votre état d'esprit en ce moment-là, c'est quoi?
Bon, il faut dire que l'état d'esprit, j'étais un peu découragée, mais je me suis dit, ce n'est pas le moment, je dois tenir bon. Parce que j'ai laissé ma mère à Bobo Dererai avec plein de frères. Elle n'a pas vraiment une situation pour pouvoir les nourrir correctement. Donc, je vais reprendre une autre activité et voir ce que ça va donner. Et on avait une voisine qui est venue que je ne connaissais pas. Elle voulait acheter des tissus. Je lui ai dit, mais je ne vais plus au Burkina, j'ai tout perdu. Elle dit, ah, moi je fais du vivrier, je fais l'Orodougou, je vais vers Soubré. J'étais avec une amie, mais elle n'est pas là. C'est dangereux d'aller seule en brousse. Si ça t'intéresse, on peut aller. Je lui ai dit, mais je n'ai pas d'argent, je n'ai que 4 000. Elle dit, bon, le soir tu viens, on va voir mon mari, il va nous prêter un peu d'argent. Et il nous a remis la somme de 30 000. Et on a repris les 30 000 pour aller à Petit Bonoukou, sur la route de Meadji. Petit Bonoukou allait acheter du manioc, de la banane et on a fait un premier voyage, on est venu vendre. Quand on a vendu les 30 000, on a eu 75 000. On en avait 5 000 francs pour le repas. Là maintenant, on prépare chez elle, je mange et puis bon, je dors chez ma petite soeur. Et au bout de 4 mois, on s'est retrouvé avec la somme de 600 000. Mais pourquoi on est les 600 000? J'ai été l'élément catalyseur des 600 000 parce qu'elle venait de contracter une grossesse qui la fatiguait. Elle m'a dit, ah, je ne pourrais pas partir aujourd'hui, toi seul, il faut partir. Et en ce moment, il n'y avait pas de la banane sur le marché. J'arrive dans le village. Il y a des jeunes, des hommes qui jouaient dames. Je m'approche, je dis, ah moi je vais payer banane. Il y a un jeune qui dit, tu as l'argent? Je dis oui. Il dit, bon attends, moi je m'avais porté mon habit de champ, on va aller dans mon champ. Et je cours, je vais dire à ma tutrice, le monsieur qui est là-bas, là, il dit, on va dans son champ. Donc je te préviens, on ne sait jamais. On arrive dans le champ, non, les bananiers ont donné. Ils ont fait 4 chargements de Kia. Et c'est cette banane-là, on est venu vendre et on s'est retrouvé à près de 700 000 francs.
Tout ce que vous dites, on voit des situations où, lorsque vous êtes dans le creux, il y a des personnes, des bonnes volontés qui vous aident à vous relancer. Alors, je reviens sur votre état d'esprit. Quelle a été votre force quand on est face à cette situation? Peut-être quelqu'un d'autre, une jeune dame, vous avez relevé un aspect. Elle s'est dit, bon, je vais chercher à me marier, puis bon, je vis ma vie de foyer. Quelle était votre force de caractère?
Moi, ma force de caractère, dans un premier temps, vraiment, j'avais confiance en Dieu. J'ai dit tout ce que Dieu fait est bon. Mais je me disais que pour être autonome, il faut que moi-même je me batte. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui le fera pour moi. Même je vais me marier, mais il faut que moi-même, là, je me lève pour me battre, pour me faire une place au soleil. En tout cas, c'est ce qui m'animait. Chaque fois que ça dégringolait, je me remettais dans les mains de Dieu et je me relançais dans une autre activité. Et c'est de là, quand on a eu les 700 000, on a remboursé l'argent de son mari et on a divisé. Elle a pris sa part, j'ai pris ma part. Toujours, il y avait des risques. Aller seule en brousse et j'ai décidé de ne pas partir. Et je suis restée là encore. Qu'est-ce que je dois faire? Deux jours après, il y a une dame qui était dans le quartier, je ne la connais pas, qui est venue me voir. Ah, vous n'êtes pas allé au campement aujourd'hui, je voulais acheter de la banane. Je dis non, que ma collègue ne se porte pas bien, donc je suis un peu en quoi. Elle dit, mais moi, je vais au Ghana, je vais à Lomé faire des achats. Bon, si ça t'intéresse, on pourrait partir. J'ai dit oui, on s'en va. Et le même soir, on a pris un car, on allait à Abidjan, Abidjan à Boisson, on allait au Ghana.
Voilà, histoire palpitante de Madame Guédé que nous découvrons ici à San Pedro. Nous allons nous arrêter aujourd'hui, en tout cas pour la première partie de cette histoire, parce que c'est une longue histoire de sa vie. Nous allons la découvrir la semaine prochaine encore. Merci à vous, à mes auditeurs. C'était donc Economia pour ce jour. La semaine prochaine, le même rendez-vous, aux mêmes heures, vous le savez. Portez-vous bien. Au revoir.
Economia, votre rendez-vous hebdomadaire d'informations économiques à suivre sur Radio de la Paix.